France Inter, le 7-9. Intervenez.
François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, est l'invité de France Inter ce matin. À mes côtés pour cette dernière partie du 7-9, Léa Salamé, Bernard Guetta, Thomas Legrand et vous, amis auditeurs d'Inter, je donne la parole à Timothée. Bonjour, vous nous appelez de Paris 11e arrondissement.
Oui, bonjour à tous.
On vous écoute. Bonjour.
Alors pour rebondir sur les paroles de Macron à CNN qui semble préférer à nos médias français et qui dit la démocratie ne se fait pas dans la rue, en quoi vous qui avez conquis une extrême minorité de la minorité qui a voté aux primaires PS et qui avait trahi une promesse de soutien aux vainqueurs de la dite primaire, serait plus légitime que nous, citoyens, qui n'avons in fine que la rue pour nous exprimer? Pourquoi vous représenteriez mieux la démocratie que nous?
Merci Timothée pour cette question. François de Rugy vous répond.
Eh bien, je fais partie des 577 députés qui ont été élus. Et il se trouve que pour être élu, il faut rassembler la majorité des électrices et des électeurs qui participent aux élections législatives. De même qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République après avoir été en tête au premier tour, il a été largement majoritaire au deuxième tour. Et je veux dire à Timothée qu'il a bien tort de considérer qu'il n'a aucun autre mode d'expression que de manifester dans la rue. Ça en fait partie. Et d'ailleurs, en France, le droit de manifester est protégé au plus haut point. Mais il peut s'exprimer en votant aux élections, il peut même se présenter aux élections et peut-être qu'il rassemblera plus de voix que moi ou qu'un autre et à ce moment-là il sera élu et il viendra siéger à l'Assemblée nationale.
Et vous ne bougerez pas même si la rue est nombreuse dans les jours qui viennent contre le projet de loi travail?
Mais moi, j'ai eu l'occasion de dire publiquement, et je l'ai dit aussi aux responsables syndicaux que j'ai reçus, j'étais encore hier soir avec M. Martinez de la CGT. J'ai dit, on ne fait pas la loi dans la rue. Donc, je ne vais peut-être pas plaire à Timothée qui vient de s'exprimer, mais c'est une réalité que je veux rappeler. Chacun est dans son rôle. Les syndicats, d'ailleurs, ils peuvent contribuer à la loi. Il y a parfois des accords qui sont signés entre les syndicats et le patronat, et nous, les députés, on nous demande simplement de les ratifier, un peu comme les ordonnances, d'ailleurs. C'est-à-dire, on nous demande de voter oui ou non. Et nous le faisons. Là, il y a un processus qui a été enclenché, qui a été annoncé avant l'élection présidentielle, avant les élections législatives, en toute transparence, réformer le Code du travail par voie d'ordonnance. Nous en avons débattu à l'Assemblée avant, au mois de juillet. Il y a eu 35 heures de débat.
Donc il n'y a pas de troisième mi-temps
social. Il y a eu un vote. On vous a entendu. Également une ratification du projet de loi.
Léa Salamé.
Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Le CETA, l'accord commercial ouvertement libéral entre l'Union européenne et le Canada, entre en vigueur aujourd'hui. L'écologiste que vous êtes, ça lui va?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites l'écologiste que vous êtes, ça vous va.
Que vous
Est-ce
étiez.
Que vous considérez que tout accord de libre-échange et que tout approfondissement des échanges commerciaux entre des pays, par ailleurs, qui sont des grands pays développés, comme le Canada et les pays de l'Union européenne, sont anti-écologiques? Est-ce que c'est la phrase sous-jacente à votre question? Moi, je ne suis ni un libre-échangiste, je l'ai dit une fois avec un peu d'humour dans un débat forcené, je ne crois pas qu'il faille tout le temps, avoir des échanges commerciaux de plus en plus développés, notamment lorsqu'il y a un gros différentiel de normes social, écologique, entre les pays. Là, il se trouve quand même que le Canada, c'est un pays avec lequel nous avons quand même un niveau de vie, un niveau de protection sociale, un niveau de protection environnementale qui est assez équivalent.
Donc vous êtes favorable au CETA et vous êtes favorable à ce que l'Assemblée nationale ratifie le traité.
Je suis favorable, en tout cas, à ce qu'on clarifie les règles. Parce que c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant du point de vue démocratique que ces accords soient négociés, qu'ils soient le cas échéant, donc signé par l'Union européenne et par le Canada,
et qui s'applique à nous.
Et qui s'applique avant d'être ratifié. Moi, là, je trouverais ça quand même plus logique et au Parlement européen, puisque c'est une prérogative de l'Union européenne que de négocier des accords commerciaux et ensuite de les faire ratifier par le Parlement européen.
D'accord, mais vous répondez pas à ma question. Vous, en tant que député, vous le signez, le CETA? Vous êtes favorable au CETA?
Je pense que dans bien des domaines, c'est utile. Dans d'autres, il y a des interrogations. Il y a en revanche beaucoup de mensonges qui sont racontés. Parce qu'on nous dit que c'est contraire à l'accord sur le climat, ce qui est totalement faux. Mais bon, ça, il y a des gens qui continuent à raconter ça et qui continuent à l'encanter parce qu'ils sont contre les échanges commerciaux. C'est leur droit, mais c'est pas la peine d'inventer des mensonges. Quand on est contre quelque chose, il y a qu'à le dire qu'on est contre. Mais par exemple, ce qui est assez choquant sur le CETA, c'est que vous avez vu qu'à un moment donné, il a suffi qu'une région de Belgique, la Wallonie, s'y oppose et potentiellement ça pouvait tout arrêter. C'est complètement aberrant. Ce qu'il faut, c'est que les responsabilités de chacun soient bien identifiées. L'Union européenne est responsable pour négocier ça. Elle doit le faire en toute transparence, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est le Parlement européen qui doit contrôler et ratifier cela avant de le mettre en application.
Vous fûtes membre d'Europe Écologie Les Verts, puis ensuite bon, vous avez changé et évolué. Une question sur le parti même, un parti partis écolos. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça en France aujourd'hui? Ou est-ce que, comme tant d'autres partis après la présidentielle et les législatives, bon ben voilà, c'est un moment de l'histoire qui est derrière nous. Il n'y a plus la place, il n'y a plus besoin.
Moi, j'ai tiré la leçon d'une longue expérience d'un parti écologiste, Les Verts d'abord, puis Europe Écologie Les Verts, puisque j'en ai été membre pendant 18 ans. J'en ai tiré la leçon en 2015, à l'été 2015, qu'en effet, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une recherche d'efficacité. Moi, je recherche l'efficacité dans mon engagement politique. J'ai envie que les idées que je défends, elles puissent être mises en œuvre. Mais... qu'on puisse rassembler largement autour de ces idées. Les Verts ont fait le choix, au contraire, de la marginalisation, de toujours être minoritaire. C'était même, on avait l'impression qu'il fallait chercher la position qui pouvait être la plus minoritaire dans la société.
Nicolas Hulot,
le résultat électoral ne se fait...
Ça ferme cette parenthèse politique et... partidaire.
Moi, je ne tiens pas des propos définitifs, mais ce que je vois d'abord, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas que français. Je suis toujours très attentif à ce qui se passe en Allemagne. J'ai moi-même eu des échanges avec un député RVR allemand pendant de nombreuses années. Je continue à avoir des échanges avec mon homologue allemand, avec mon homologue italienne, qui est issu d'un parti écologiste au départ qui a disparu. Voyez. Eh bien, en effet, je constate que un parti strictement ou exclusivement écologiste, a du mal à trouver sa place dans les différents systèmes politiques et que l'idée qu'on peut faire avancer l'écologie dans un mouvement plus large, comme nous le faisons par exemple avec Nicolas Hulot, elle en revanche peut être efficace comme aujourd'hui avec En Marche, avec Emmanuel Macron et dans d'autres pays.
Éric, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci. J'ai une question à poser à M. de Rugy, mais je pense que ce que voulait dire Timothée, c'est que la légitimité de certains qui a trahi son camp est plus faible que ceux qui restent dans...
On vous entend très mal, je suis désolé Eric, on vous entend extrêmement mal.
C'est donc, sur l'aspect trahison.
Voilà, c'était ça la première idée qu'on a pu deviner.
Oui.
Allô ?
François de Rugy. Non, allez-y, François de Rugy, la ligne est trop mauvaise avec Eric.
Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas entendre la question d'Eric. Il y a un discours récurrent en politique sur la trahison. Et d'ailleurs, un député d'En Marche racontait l'autre jour qu'il avait déjà rencontré des gens qui lui ont dit « Ah, tu as trahi », etc. Bon.
Jugeons
les uns et les autres sur les résultats.
Rappeler pourquoi cet auditeur et les auditeurs qui ont téléphoné vous font ce procès, c'est parce que vous faisiez partie de la primaire socialiste, que vous aviez dit que vous soutiendriez
le vainqueur de cette primaire et vous avez soutenu Emmanuel Macron. Voilà, le procès en trahison.
Et je vous disais, il faut juger sur les résultats. Nous serons jugés, la majorité parlementaire, le gouvernement, sur les résultats que nous aurons obtenus à la fin du mandat. Mais là, par exemple, Monsieur Hamon, qui a été, en effet, désigné par une primaire avec 2 millions de votants. Il s'est présenté devant les Français, où là, c'est pas 2 millions de votants, c'est 45 millions d'électeurs inscrits. Et il a fait 6%. Bon, il fallait quand même s'interroger sur
pourquoi... Parce qu'il a été trahi.
Enfin, écoutez, excusez-moi, je pense que j'ai fait le chemin que des millions d'électeurs en France ont fait.
Oui, c'est ce que vous aviez promis de ne pas faire.
Vous aviez signé.
Discuter aussi. Monsieur Hamon devait rassembler tous les candidats du premier tour de la primaire et discuter avec eux des moyens du rassemblement. Il ne l'a jamais fait. Il n'a même pas décroché son téléphone, voyez-vous, pour m'appeler et me demander qu'est-ce qui pourrait être un moyen de se rassembler. Il ne le voulait pas. Pourquoi? Parce que Monsieur Hamon, il était dans la logique qui existe à gauche. Et c'est une des raisons pour lesquelles En Marche, le mouvement En Marche s'est créé autour d'Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron l'a créé. C'est les gens qui pensent qu'il faut savoir qui est le plus pur à gauche, de même que chez les écolos, qui est le plus pur, c'est-à-dire qui est le plus minoritaire. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Il a fait 6% à l'élection présidentielle. J'ai entendu sur votre antenne, il était invité un jour dans ce studio, et il a dit, on lui demande, mais est-ce que vous avez tiré les leçons de ces élections? Il a dit, non, les gens m'ont dit, ils étaient d'accord avec mon programme, mais ils n'ont pas voté pour moi. Ah bon, dites donc, c'est une drôle de conception de la démocratie que de dire que lorsque vous avez présenté un programme aux Français et qu'il a été désavoué par 94% des gens, ah mais vous n'avez rien à changer. Il n'y a aucun problème. Le problème, en fait, c'est le peuple. Le problème, c'est les citoyens. Eh bien non. Moi, je préfère des députés qui sont, et je l'ai été, j'en ai fait le choix, et je me suis présenté devant les électeurs qui font le choix de rassembler et de voir si ce rassemblement est validé par les électeurs.
Et Paris vaut bien une messe, hein, c'est ça. Vous pouvez déchirer le papier que vous aviez signé.
Mais attendez, mais monsieur Demorand, moi, je me présente aux élections. Ma légitimité, c'est l'élection. Depuis toujours, j'ai pas toujours été majoritaire. Vous savez, quand je me suis présenté comme candidat vert la première fois de ma vie à 20 ans, j'ai fait 3,8%. J'aurais pu continuer dans mon petit coin, etc. À quoi ça sert? Moi, je cherche à être efficace. Je veux une Assemblée nationale efficace. Et je vois que les Français, c'est aussi ce qu'ils veulent.
Avant de retourner au standard, donner la parole à Denis, Question sur le questeur, Thomas Legrand.
Pour la première fois, il n'y aura pas, depuis le milieu des années 90, il n'y aura pas de questeur d'opposition. Il y a trois questeurs. Les questeurs, c'est fait pour gérer les finances et l'organisation, le budget de l'Assemblée. Et là, tous les questeurs sont de la majorité. Ça pose un problème.
François,
c'est contradictoire avec ce que vous disiez.
Alors, il y a un des trois questeurs qui est issu d'un groupe d'opposition, mais qui se dit opposition constructive. C'est Monsieur Soler.
Ça s'appelle majorité.
Qui a voté la confiance.
Oui, mais nous sommes dans une situation un peu particulière à l'Assemblée nationale. Si vous me permettez qu'on prenne un petit peu de recul, et je répondrai précisément à votre question. Il y a 5 groupes d'opposition. Ce n'est jamais arrivé. Il y a 7 groupes à l'Assemblée nationale, 5 d'opposition. Et parmi cette opposition, il y en a un qui se dit constructif et qui, de fait, certains de ses membres ont voté la confiance. Donc c'est un peu particulier, mais il s'est déclaré groupe d'opposition. Par ailleurs, ce problème que vous avez relevé, nous essayons de le régler avec le groupe majoritaire,
d'une part, groupe En Marche,
et le groupe Les Républicains, qui est le principal groupe d'opposition. Et nous sommes d'ailleurs prêts même à envisager une petite réforme du règlement pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas.
Parce que j'ai trouvé ça... Ça veut dire quand est-ce qu'il y aura un questeur de l'opposition dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Quand est-ce que vous allez changer le règlement pour ça?
Alors on va essayer de changer le règlement rapidement, donc c'est-à-dire sans doute même au mois d'octobre. En tout cas, c'est la proposition qui pourrait être faite de façon consensuelle, mais sur un point précis qui est celui de la répartition des responsabilités au bureau. Alors après, il peut démissionner.
De manière constructive. Une démission constructive pour restaurer les droits de la minorité et de la pluralité.
Je veux qu'on soit précis et pédagogique sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce que c'est pas toujours évident. Il se trouve que le bureau de l'Assemblée nationale, il est réélu tous les ans. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, mais les vice-présidents, les questeurs sont élus et réélus tous les ans. Donc au mois d'octobre 2018, de toute façon, la question se reposera. Et par ailleurs, surtout ce que je veux dire, c'est que les trois questeurs, deux issus d'En Marche et Thierry Soler, donc Florian Bachelier, Lauriane Rossi et Thierry Soler, ils travaillent, ils sont au travail et ils contribuent fortement à la transformation de l'Assemblée nationale que j'ai voulu et qui est soutenue par la majorité. Et ça va sur des sujets concrets qui intéressent nos compatriotes.
Il va y en avoir un nouveau ou pas par exemple, questeur, vous demandez Thomas Legrand, vous avez promis de répondre.
Mais j'ai dit qu'en octobre 2018, de toute façon, il y aura un nouveau vote.
Donc il n'y aura pas de questeur de l'opposition d'ici octobre 2018.
Sauf si Monsieur Soler démissionne, mais ça m'étonnerait. Est-ce qu'on peut un tout petit peu parler du fond? Vous savez qu'on a pris des décisions. Le régime de retraite des députés, qui était un régime spécial avec un mode de calcul complètement différent du mode de calcul général, nous l'avons aligné sur le principe et nous allons le voter aujourd'hui les modalités. Et c'est 30% d'économie dans le futur. Voilà, ça c'est ce que font les questeurs de façon efficace. Là, ce n'est plus une question de telle ou telle couleur politique.
On me dit que Denis au Standard est en colère. Bonjour Denis.
Non, pas très en colère.
Eh ben super, alors on vous écoute.
Pour moi, la parole d'honneur, c'était une parole d'honneur, mais ma question ne porte pas sur cette idée. François de Rugy était le seul candidat de la primaire de la gauche qui défendait la GPA et qui venait des rangs de l'écologie. J'aimerais qu'il puisse argumenter cette idée de la GPA alors que beaucoup de ses anciens amis, je dis bien ses anciens amis, se prononcent contre, ne serait-ce que José Bové, qui est quand même une représentation de l'écologie.
On l'a entendu effectivement dans la revue de presse de Claude Ascolovitch. PMA, GPA.
Oui,
François de Rugy.
Oui,
même chose. Hein.
Oui, tout à fait. J'ai défendu en effet l'idée qu'il puisse y avoir en France une légalisation contrôlée, encadrée bien sûr, de la GPA. C'est ma position, c'est pas la position du mouvement En Marche ou du président Emmanuel Macron qui ne s'est pas du tout engagé là-dessus avant les élections, je tiens à le dire. C'est toujours ma position, par ailleurs. Mais il n'y a pas de majorité, je pense, à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour adopter une telle mesure. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, on ne pourrait pas réprimer le désir d'enfant. Après, on ne peut pas toujours le satisfaire. Il y a des couples et des parents, hommes-femmes, ou hommes-hommes, ou femmes-femmes, qui ont ce désir d'enfant. Et aujourd'hui, il y a des possibilités de gestation pour autrui à l'étranger. Et il y a des Françaises et Français qui y vont. Et on se retrouve dans une situation ubuesque où on refuse à leurs enfants ainsi nés l'inscription à l'état civil. Nous sommes engagés d'ailleurs avec Emmanuel Macron pour qu'ils soient inscrits à l'état civil.
D'accord.
J'ai dit que ça pourrait
se
faire.
La GPA, vous êtes clairement minoritaire sur la PMA qui va être étendue à toutes les femmes.
Là, c'est un engagement pris avant les élections par Emmanuel Macron et les candidats En Marche.
Oui, Marlène Schiappa a dit que ce sera en 2018.
Prochaine.
Oui, mais apparemment, ce n'est pas 2018. Les discussions commenceront en 2018 et ce sera plus tard, de ce qu'on a compris du Premier ministre. Peut-être que j'ai mal compris.
Vous savez, vous ou pas? Parce qu'on comprend
plus.
Pas,
non, mais je n'ai pas l'ordre du jour parlementaire, semaine par semaine et mois par mois de 2018. Moi, je souhaite...
Enfin, ça a l'air d'être le...
C'est mon souhait que ce soit inscrit à l'ordre du jour et que ce soit voté, parce que je ne vois pas pourquoi on tarderait. Je crois que tous les éléments du débat sont connus et archi-connus depuis des années. Le Comité National Consultatif d'Éthique, qui avait été saisi par François Hollande, a rendu un avis déjà il y a plusieurs
Gérard
mois.
Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, dit que ce n'est pas une priorité.
C'est son point de vue personnel, mais c'est un engagement du président de la République avant les élections. Moi, je suis pour qu'on mette en œuvre les engagements assez rapidement et surtout qu'on ne recommence pas comme en 2012-2013 où ça dure pendant un an. Hein, où un projet de loi sur un sujet comme ça, où on traite une question, dure un an. Moi, je suis pour qu'on, une fois qu'on a identifié les problèmes, on les traite. Et c'est le rôle de l'Assemblée nationale.
François de Rugy.